Le journal vous est présenté par Aurélie Kiefer.
Bonsoir. Air France suspend tous ses vols réguliers à destination et en provenance de la Chine continentale. Décision prise face à la propagation du nouveau coronavirus qui a déjà fait 170 morts en Chine. Hakim Kasmi nous en dira plus dans un instant. Quand la solitude s'ajoute au mal logement, 65% des 143 000 Français sans domicile sont sans conjoint ni enfant à charge, pointe la Fondation Abbé Pierre. Ce sera le dossier de ce journal. La Cour européenne des droits de l'homme interpelle la France sur la surpopulation carcérale, explication de Céline Autin. Et puis la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane perdent leur quotidien papier. France Antilles est placée en liquidation judiciaire. L'épidémie de pneumonie virale fait de plus en plus de victimes. Malgré les précautions prises, le bilan s'est alourdi à 170 morts en Chine. Après les Américains et les Japonais, la France s'apprête à évacuer ses ressortissants de Wuhan, foyer de l'épidémie. Les ressortissants chinois ayant des liens familiaux avec des étrangers et souhaitant quitter la ville sont désormais autorisés à embarquer à bord des avions affrétés pour leur évacuation. Mais face à la propagation du virus, plusieurs compagnies aériennes ont décidé de suspendre ou de réduire leurs vols vers la Chine continentale. Air France suspend ainsi tous ses vols réguliers jusqu'au 9 février, Hakim Kasmi.
Effectivement, il y a une décision motivée par plusieurs raison, nous a expliqué la direction d'Air France cet après-midi. Tout d'abord par les discussions avec les autorités sanitaires françaises, mais aussi pour assurer la sécurité des salariés de la compagnie, aussi bien ceux qui sont expatriés en Chine que pour ses équipages. Les hôtesses et stewards qui exercent déjà pour une grande partie d'entre eux leur droit de retrait lorsqu'ils sont affectés sur un vol sur la Chine. Un droit de retrait qui n'a pas engendré de sanctions ou de retenue sur salaire, précisent les syndicats. À cela, il faut ajouter aussi l'aspect économique avec des avions d'Air France de plus en plus vide lorsqu'ils étaient en direction de la Chine. Cette suspension des vols est donc un véritable soulagement pour Christelle Oster, la secrétaire générale du SNPNC.
On a appris qu'il y avait parfois une centaine ou 150 passagers sur un A380. Effectivement, on peut se poser la question de la pertinence économique du maintien de la ligne. Mais je pense malgré tout que c'est bien la situation sanitaire et l'inquiétude pour les salariés qui a conduit à cette suspension de la desserte.
Alors, même si les équipages sont habitués aux crises sanitaires, comme avec Ebola, Zika ou encore le chikungunya, ils doutent de la sincérité des autorités chinoises quant au risque réel de propagation du virus. Enfin, dès ce soir, Air France va assurer des vols spéciaux sur Pékin et Shanghai avec des équipages volontaires pour faire rentrer ses clients encore bloqués dans le pays.
Hakim Kasmi, les groupes MSC et Costa ont annulé des croisières au départ de ports chinois et en Italie, quelques 7000 personnes sont bloquées depuis ce matin à Civitavecchia, près de Rome, sur un navire de croisière car deux personnes pourraient être porteuses du virus, Bruce de Galzin.
Le couple suspect vient de Macao, mais seule la femme de 54 ans tousse et a de la fièvre. Avec son compagnon, ils sont tous les deux mis à l'isolement. L'Institut national des maladies infectieuses fait des prélèvements à bord dès ce matin, mais en attendant les résultats, 6000 passagers et 1000 membres d'équipage sont bloqués sur le Costa Smeralda, un énorme bateau de croisière. Et c'est en début d'après-midi que le commandant du port de Civitavecchia annonce les premiers résultats encourageants et le débarquement des 1140 passagers qui terminaient ici leur croisière. Sauf que le maire de Civitavecchia s'y est immédiatement opposé, Ernesto Tedesco.
Personne ne descend. J'ai même écrit une lettre aux autorités compétentes pour leur demander cela expressément. J'ai demandé que les mesures qui interdisent l'embarquement et le débarquement depuis ce matin restent en vigueur dans l'attente des résultats des analyses. Et je pense que c'est la logique des choses.
Personne n'est donc descendu du Costa Smeralda. Les résultats définitifs sont censés être connus d'ici ce soir. Les autorités italiennes veulent éviter la psychose et rappellent que jusqu'à présent, tous les cas suspects analysés se sont révélés négatifs.
Bruce de Galzin, correspondant de France Culture en Italie. Le chef de la diplomatie américaine lance une nouvelle attaque contre Pékin. Fin octobre, Mike Pompeo avait accusé la Chine d'être ouvertement hostile aux États-Unis. En novembre, Pékin incarnait à ses yeux une nouvelle vision de l'autoritarisme. Le secrétaire d'État américain vient de récidiver à Londres. Le Royaume-Uni a décidé d'accorder aux Chinois Huawei d'intégrer son réseau 5G et Mike Pompeo a bien fait comprendre au chef de la diplomatie britannique, Dominic Raab, que cela lui semblait une très mauvaise idée.
Les temps changent et une terreur nous oblige à rester vigilants aujourd'hui à travers le monde. Le Parti communiste chinois incarne la principale menace de notre époque. C'est une énorme économie à laquelle l'économie américaine est intimement liée. Il y a de grandes opportunités pour que nos deux pays fassent preuve d'innovation et de créativité en termes de business, mais le Parti communiste chinois et le président Xi ont été assez clairs sur le fait que leur agenda ne s'accorde pas toujours avec les valeurs dont nous avons parlé ce matin avec Dominique. Les nations occidentales doivent s'assurer que nos principes démocratiques prévaudront dans le futur pour être certain qu'elles resteront un modèle prédominant pour le monde dans les siècles à venir.
Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. Les eurodéputés dénoncent l'empreinte écologique inutile des chargeurs de téléphones portables. Et dans une résolution non contraignante adressée à la Commission européenne, ils réclament l'adoption en urgence d'une norme de chargeur universelle dans l'Union. L'idée n'est pas nouvelle, elle s'est pour l'instant heurtée aux réticences de l'industrie. Apple est fermement opposée aux chargeurs universels. La ville de Berlin adopte le plafonnement des loyers. Confrontée à une flambée des prix et à une pénurie de logements, la capitale allemande a décidé de geler les loyers dès cette année et pour 5 ans. C'est l'issue de débats acharnés qui ont duré des mois. Le texte a été adopté par 85 des 150 députés régionaux, mais il est menacé de recours de la part des propriétaires, Nathalie Versieux.
Le dispositif prévoit un gel pur et simple des loyers pour une durée de 5 années. À partir de 2025, la hausse sera limitée à 1,3% par an pour les logements les plus récents. Certains loyers dépassant largement la moyenne de leur quartier pourront même être baissés. 1,5 million d'appartements du parc privé sont concernés. À Berlin, la pénurie de logements s'est traduite par un doublement du niveau des loyers en 10 ans, alors que la ville attire 10 000 habitants supplémentaires par an. Les Berlinois consacrent en moyenne un quart de leur salaire pour se loger et seuls 18,4% d'entre eux sont propriétaires de leur appartement, l'un des plus faibles taux d'Europe. Le texte très attendu par la population provoque la fronde des propriétaires défendue par le parti conservateur. La CDU a déjà annoncé vouloir déposer un recours devant la Cour constitutionnelle.
Nathalie Versieux à Berlin. En France, la Fondation Abbé Pierre publie son rapport annuel sur le mal logement et son bilan est une fois encore assez noir. Alors que le gouvernement se félicite d'avoir relogé plus de 150 000 personnes sans abri ou mal logées depuis 2017, grâce à son plan Logement d'abord, la Fondation Abbé Pierre, elle, met l'accent sur les tristes records de 2019. Record d'expulsion avec l'aide de la force publique, plus 3% par rapport à l'année précédente, record du nombre de ménages en attente de logements sociaux ou encore record des coupures d'énergie à cause d'impayés. Et le mal-logement des personnes seules s'aggrave encore. Elles constituent désormais 65% des ménages sans domicile et leur isolement accentue souvent la possibilité d'accéder à des solutions de logement. À Voipy, près de Metz, la Fondation Abbé Pierre a mis en place une structure pour loger ce public particulièrement fragile et rompre son isolement, une pension de famille que vous avez visitée, Anne Lorchouin. Pension de famille Les Quatre Saisons à Voipy, à quelques centaines de mètres de Metz. Une zone pavillonnaire calme, mais proche des commerces et des services. Aujourd'hui, séjour de table d'hôtes. D'autres personnes isolées, dirigées là par les Restos du Cœur ou la mairie, viennent manger à la pension. Et pour l'occasion, tous les résidents se mettent à la cuisine, comme Jean-Pierre qui habite ici depuis 2016.
Je travaille dans la maçonnerie, un peu partout. Et après, j'ai eu des problèmes de santé. J'ai déjà été opéré 3 fois du dos. J'ai été aidé à venir ici par un travailleur social. Si je vivais dans un foyer avant, et j'étais isolé, quoi. Ici, on bouge, on travaille, on peut faire de la cuisine.
La cuisine, c'est le cœur de la pension, entourée par un jardin où les résidents s'occupent d'un potager, et par 17 studios, dont 2 seulement sont réservés à des couples. Mais les personnes qui vivent à la pension en ce moment sont seules, en grande majorité. Héloïse fait partie des 4 travailleurs sociaux qui s'occupent de la gestion et des résidents de la pension.
Il y a des personnes pour qui resteront certainement toute leur vie, c'est leur choix. Et il y a des personnes pour qui la pension de famille va être réellement un tremplin, puisqu'on a le droit à des APL qui sont un peu plus conséquents que dans un logement lambda. Chaque studio, en fonction de la taille, a une redevance bien attitrée.
100 euros par mois, en moyenne, en fonction des revenus, souvent très très faibles, des résidents. Ces derniers viennent de foyers, de la rue, de centres d'hébergement et de réinsertion sociale, ou encore d'autres pensions.
Pas d'obligation pour elles d'habiter ici. Elles ne viennent que si elles le souhaitent, pour être à la fois autonome et entouré.
Donc il va y avoir un premier entretien où nous on explique un peu comment on fonctionne, savoir pourquoi la personne elle voudrait venir vivre ici et savoir si notre fonctionnement à nous lui convient. C'est pas rien de vivre en pension de famille, il faut quand même partager du temps collectif. Et du coup si notre fonctionnement a l'air de lui convenir, on lui propose alors de venir passer une première journée avec nous. Puis si la personne est toujours en demande, alors on va réaliser une semaine d'immersion. Et du coup, ça permet réellement à la personne de pouvoir voir si notre fonctionnement lui convient, pour vraiment éviter de la mettre en situation d'échec si jamais ça ne lui plairait pas.
Malheureusement, les personnes seules subissent souvent la double peine. Elles ne sont pas prioritaires pour les logements d'urgence. Et faute de relations, elles sont moins repérées par les services d'aide et plus sujettes au non-recours. Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre.
35% des ménages en France sont constitués d'une seule personne. Et donc ce phénomène-là doit être pris en compte. La moitié quasiment des demandes de logements sociaux émanent de personnes seules. Alors que le parc de logements, il est encore vraiment basé sur des T3, T4 pour des familles.
À la pension de famille de Voipy, la table d'hôte prend fin. Les invités promettent de revenir pour apprendre aux résidents qui le veulent à faire le couscous. Ces pensions de famille, appelées aussi maisons relais, existent avec leurs objectifs actuels depuis 1996, sous l'impulsion à l'époque de Xavier Emmanueli. Elles restent peu connues pourtant. Anne Hidalgo a promis d'en créer de nouvelles dans la capitale, sans pour l'instant donner de budget.
Reportage d'Anne Lorchouin à Voipy. L'État et les partenaires sociaux ont 3 mois pour trouver un accord. La conférence sur l'équilibre et le financement des retraites a été officiellement lancée cet après-midi par Édouard Philippe. Le déficit à combler est estimé à terme à 12 milliards d'euros par an, mais il n'est pas question de toucher au pouvoir d'achat des retraités ni d'augmenter le coût du travail. Vous êtes au Conseil économique, social et environnemental, Anne-Laure Jumet.
Oui, bonsoir. La réunion a duré environ 1h30. Patronat et syndicats défendant chacun leur position. On ne pourra échapper à une mesure d'âge, on dit en chœur le MEDEF et la CPME, autrement dit allonger l'âge de départ à la retraite. Quand la CFDT ne veut pas rentrer dans le vif du sujet, ce n'est pas encore le temps des propositions, estime Laurent Berger. Et si le Premier ministre a assuré à l'issue de cette première réunion avoir bon espoir de trouver un compromis, le secrétaire général de Force ouvrière assure lui que des vents contraires ont soufflé dans la salle. Maintenant, les partenaires sociaux vont rentrer dans le dur. 2 groupes de travail sont prévus, l'un sur l'équilibre à court terme, à horizon 2027, l'autre sur la gouvernance et l'équilibre moyen-long terme, avec donc pour objectif, vous le disiez, d'aboutir à la fin avril. Et puis, en parallèle, la semaine du 10 février, syndicats et patronats seront reçus à Matignon pour un point d'étape sur la pénibilité, la question des transitions ou encore la pension minimum, avec pour objectif d'intégrer ces mesures dans le projet de loi sur la réforme des retraites, projet examiné à l'Assemblée à partir du 17 février prochain.
Merci Anne-Laure Jumet. La France doit résorber définitivement la surpopulation carcérale. C'est la Cour européenne des droits de l'homme qui l'exige. La CEDH a été saisie par 32 détenus français, accompagnés par l'Observatoire national des prisons. Manque d'intimité, présence de nuisibles, absence de travail et de conseillers d'insertion, leurs conditions de détention étaient assimilables, selon eux, à des traitements inhumains et dégradants. L'OIP espérait donc un arrêt pilote qui contraigne la France à agir, ça n'est pas le cas. Mais l'Observatoire voit tout de même dans cette décision de la CEDH une victoire historique, Céline Autain.
Avec cet arrêt, la France va d'abord devoir payer près de 500 000 euros aux 32 prisonniers qui ont déposé les requêtes. Mais au-delà de ces cas individuels, la Cour européenne a rendu une condamnation de principe contre un problème structurel avec des préconisations. Maître Patrice Spinozzi, avocat de l'OIP.
Il y a pour la première fois des injonctions qui sont formulées par la Cour européenne des droits de l'homme à l'égard de la France, qui doit mettre fin à la surpopulation carcérale, qui doit donner aux détenus des recours pour lutter contre les traitements inhumains et dégradants. Le but est désormais très clair. Il faut qu'un détenu, lorsqu'il saisit un juge et qu'il est dans une situation de traitement inhumain et dégradant, ce juge puisse mettre fin à cette situation et non pas simplement la constater.
Autre injonction de la Cour européenne, mesurer différemment la surpopulation, aller au-delà du nombre de prisonniers au mètre carré, comme l'explique Nicolas Ferrand, responsable du pôle contentieux de l'OIP.
L'idée de prendre en compte la capacité d'accueil de l'établissement, et la capacité d'accueil, c'est pas simplement les lits, c'est aussi est-ce qu'il y a suffisamment de parloirs pour que les familles viennent voir les détenus, est-ce qu'il y a suffisamment de travail pour que les détenus puissent avoir des activités en détention, est-ce qu'il y a suffisamment de conseiller d'insertion et de probation pour être accompagné dans des projets de sortie, etc., etc. Et donc, ça modifie considérablement la donne, parce que si vous créez simplement des places sans créer par ailleurs l'offre de travail, l'accompagnement qu'il faut, etc., vous ne résoudrez pas le problème qu'entend dénoncer la Cour.
La France passe sous surveillance du Conseil de l'Europe. Elle va devoir rendre des comptes régulièrement sur l'évolution de la surpopulation carcérale. L'Observatoire assure quant à lui qu'il va se saisir de l'arrêt pour défendre de nouveaux détenus devant les juges français.
Le cardinal Barbarin est relaxé en appel. Il était jugé pour ne pas avoir dénoncé les abus sexuels du père Prénat sur de jeunes scouts. Les parties civiles vont se pourvoir en cassation. On retrouve Mathilde Imberti à Lyon.
13h30 précise, la décision tombe, la cour d'appel de Lyon déboute les parties civiles. Le jugement de première instance est balayé, celui qui condamnait Philippe Barbarin de la prison avec sursis. Stéphane Haro, victime du père Prénat, accuse le coup.
Par rapport à l'année dernière, oui, c'est totalement inversé et puis c'est une mauvaise surprise. Et du coup, c'est une bonne claque, quoi. Il aurait dû dénoncer, quoi. Maintenant, la justice en a décidé autrement. On verra après pour la suite si on doit aller en cassation.
Les avocats des parties civiles annoncent effectivement qu'elles vont se pourvoir en cassation. L'avocat du cardinal Barbarin accueille, lui, soulagé la décision de la cour d'appel. Les magistrats du second degré relaxent l'archevêque, car selon eux, ils n'avaient pas l'intention de faire entrave à la justice et parce que les victimes majeures pouvaient porter plainte elles-mêmes, maître Jean-Félix Luciani.
Pour nous, c'est une décision qui remet au moins pour partie les choses en place. La cour considère bien sûr qu'il n'y a pas d'infraction parce que forcément, les gens étaient capables d'aller déposer plainte eux-mêmes et qu'il n'y a pas d'élément moral, c'est-à-dire d'élément intentionnel. C'est la fin, en tout cas, d'une action qui m'était apparue dès le départ comme en trop, parce que sur un plan juridique, il m'apparaissait à peu près évident qu'il n'y avait pas d'infraction pénale.
Le cardinal Barbarin annonce ce soir qu'il prend acte de la décision de justice, qu'il n'est pas coupable, mais qu'il va tout de même renouveler son souhait de démissionner auprès du pape François.
Le tribunal judiciaire de Nanterre se déclare incompétent pour juger le dossier relatif aux activités de Total en Ouganda. Des ONG accusent le géant pétrolier de ne pas prendre en compte les impacts de deux méga-projets sur les populations et sur l'environnement. Elles le poursuivent au nom de la loi sur le devoir de vigilance, mais le tribunal renvoie l'affaire vers le tribunal de commerce, ce qu'avait demandé Total. Les associations et ONG pensent faire appel. Elles voient dans ce choix de juridiction un mauvais signal sur l'interprétation future de la loi. Écoutez, maître Céline Gagel, l'une des avocates des associations.
Pour nous, c'est une déception. On a peur, en fait, que le fait de donner la compétence au tribunal de commerce tue dans l'œuf la loi devoir de vigilance, parce que la juridiction consulaire, donc le tribunal de commerce, est une juridiction d'exception qui, normalement, s'occupe des litiges entre commerçants et surtout, elle est composée non pas de magistrats professionnels, mais de ce qu'on appelle des juges consulaires qui sont des commerçants et donc qui sont élus par leur pair, donc notamment par Total. Donc on a peur que ce soit une juridiction qui soit moins favorable et moins encline à s'attacher au respect des droits humains et du droit de l'environnement. La loi n'est pas forcément très très claire, elle est sujette à interprétation. On pourrait en faire une interprétation très très restrictive qui en ferait uniquement une obligation documentaire, donc publier quelques lignes dans un plan de vigilance, soit en faire quelque chose de très très fort que réclament les associations depuis très longtemps et ce qui était à notre sens l'esprit de la loi, c'est-à-dire obliger vraiment les sociétés mères à être vigilantes auprès de leurs filiales et de leurs partenaires commerciaux plus généralement. Donc elles aient une obligation pour empêcher leurs filiales de faire des atteintes très graves aux droits de l'homme ou aux droits de l'environnement.
L'avocate Céline Gagel, jointe par Catherine Pétillon. C'est la fin du quotidien papier en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Après plus d'un demi-siècle de parution, le groupe de presse France Antilles a été placé en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité par le tribunal de commerce de Fort-de-France. 235 salariés perdent donc leur emploi et les habitants de ces territoires français perdent une source d'information. Éric Chavroux.
Triste journée à Fort-de-France sous le choc de ce cataclysme social, même s'il était prévisible, raconte Rodolphe Lamy, le représentant des salariés.
Il y a eu des pleurs, il y a un peu de colère, un peu de tristesse aussi, parce que c'est un gâchis, pour nous c'est un gâchis sans nom. Notre actionnaire, Jacques Retard, nous a repris il y a 2 ans. Il y a eu quand même des erreurs stratégiques assez importantes. À le porter le projet de reprise, mais sans vouloir remettre au pot du tout. Mais surtout très triste, parce que des salariés ont consacré toute leur vie à cette entreprise. Certains ont fait 35 ans, de nuit, à l'imprimerie notamment. Voilà, non, c'est pas du tout pour l'instant, ça vient de tomber, donc on ne sait pas du tout quelle sera l'attitude du gouvernement, des élus. C'est qu'il y a déjà pas mal de réactions, parce que les gens ne croyaient pas que France Antilles pouvait disparaître comme ça.
Longtemps fleuron du groupe Hersant, France Antilles était en redressement judiciaire depuis juin dernier. Il ne restait qu'une offre de reprise par son actionnaire actuel. Mais on a appris hier que son montage financier ne tenait pas. Malgré un engagement fort de l'État et d'entrepreneurs locaux, il manquait un peu plus d'1 million d'euros. Avec désormais une pluralité de l'information menacée, souligne Rodolphe Lamy.
Notre crainte, et nous c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est que les réseaux sociaux qui sont déjà très présents continuent de prendre encore plus d'ampleur. Avec tout ce qu'on peut voir de fausses informations. Maintenant, il restera quand même des médias fiables, que sont la radio ou la télé. Mais c'est pas pareil, on ne traite pas de la même façon les choses en presse écrite ou en radio et en télé.
Ultime requête toutefois acceptée par la justice pour ce titre lancé lors de la visite du général de Gaulle en Martinique en 1964. Un dernier numéro spécial sera publié ce samedi, la conclusion d'une page de l'histoire de la presse française dont les recettes serviront aussi aux salariés pour abonder le plan social.
Et nous reviendrons sur ce placement en liquidation judiciaire de France Antilles à 22h. Le spécialiste des médias Jean-Clément Texier sera l'invité de Stanislas Vazac. Demain vendredi, le temps sera souvent couvert avec par moments de petites pluies, mais il fera doux. Température minimale de 5 à 11 degrés d'est en ouest. L'après-midi, 11 à 15 degrés sur la moitié nord, 14 à 19 au sud. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia.